Maximum, le mag.
On entame maintenant, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça notre séquence hebdomadaire. Christian Kino et Guy Van de Norgate nous présentent chaque dimanche des bonnes nouvelles dans le monde des entreprises de la région. Christian, je te laisse nous présenter tes invités du jour.
Un grand merci Elise, je suis très heureux de vous retrouver chaque dimanche, milieu de matinée, avec mon ami Guy Van de Norgate. Bonjour Guy.
Bonjour Christian.
Le positivisme en Wallonie, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Et évidemment, c'est sur Maximum. On est leader, on est les premiers, on est là en place depuis déjà bientôt 75 séquences, quand même le temps passe. Enfin bon bref, on fait tracer ça très certainement début d'année, des deux ans déjà de notre petite capsule. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de monde. J'ai à ma droite Monsieur Patrick Derouane, fondateur CEO de Derouane SA. Bonjour.
Bonjour.
Sur ma gauche, Jean-Marc Casini, directeur commercial opérationnel de Télis. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, vous savez, on en a parlé une quinzaine de jours. On a fait une petite chronique. Bon, je disais toujours, on est un peu sur l'innovation, sur Maximum, avec Marc Carnéval. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors Marc Carnéval, c'est le gérant des Sabots d'Hélène, vous le savez. La petite rubrique, eh bien en fait c'est une histoire, c'est un vin, une histoire et une année très importante, qui est l'année 1967. Il va parler d'un vin très très connu, mais bon je vais lui laisser la parole. 67, ça vous dit quelque chose monsieur Guy Van Norgate, l'année 67?
C'est vrai que la première chose à laquelle j'avais songé, on en a tout parlé, à fait. C'était l'incendie de l'innovation. Mais c'est voilà. Pas une bonne nouvelle.
C'était pas une bonne nouvelle.
Il y a des meilleures nouvelles que ça.
Un fait marquant. On a des choses un peu plus comiques peut-être. Le 31 janvier 67, bah, comme quoi l'industrie il est là, l'évolution est là aussi, c'est la fin de l'utilisation des locomotives à vapeur. Bon, ça n'a peut-être pas changé notre vie aujourd'hui, mais quoique, c'est vrai que c'est un cap. Le 13 août, c'est l'instauration de l'alcotest. Bon, ça par contre, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça remonte quand même déjà à quelques années, on n'imagine pas.
Non.
Mais entre-temps, c'est assez comique, entre le 31 janvier et le 13 août, on a eu 5 mars. Le 5 mars, ça ne vous dit rien, 5 mars 67.
Non.
Un musicien de folie, Jimi Hendrix, était au 20 Club là, le 5 mars 67. Et puis le 3 octobre, c'était l'inauguration en présence du roi Baudouin, de l'écluse, de Zandvliet. Ça vous dit quelque chose, mon cher Guy?
C'est pas la plus grande du monde à l'époque.
Bravo, bravo. Je vous dis, il est incollable, il est incollable. Marc Carnéval, bienvenue. On est là, on va parler d'un château, et pas n'importe lequel. On avait parlé de Pétrus qui n'avait pas de château, mais celui-ci, il en aurait bien les bien d'or.
Ah ben non seulement il en a un, mais il a même été classé au patrimoine en 2003.
Donc, lui, on parle duquel?
On parle de château Yquem. Ah. Voilà. Alors Yquem, il y a une petite légende et c'est une très belle histoire à raconter. On dit que le marquis de Lursalus serait parti chasser l'ours en Russie. Et il a exigé qu'on l'attende pour les vendanges. Et évidemment, ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retardé et quand il est revenu, ça avait vraiment bien mûri. On va même dire que ça avait pourri. Et il a décidé de malgré tout vendanger donc ces raisins qui étaient pourris. Et là, ils ont eu évidemment un résultat extraordinaire. Et de pourri, c'est devenu pourriture noble. On parlait d'un terme, pourriture noble, donc c'est une espèce de petit champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, qui est sur le raisin. Alors, ce qu'on doit savoir aussi sur Château Yquem, c'est que un pied de vigne égale un verre. Donc ça vous dit, c'est un travail de fou. Les vendanges, évidemment, se font un petit peu plus tard. Ça se fait en général vers fin septembre, début octobre. Et ils peuvent même passer 5 fois, parce qu'évidemment, tous les raisins, la pourriture noble ne l'attaque pas tous. Donc, ils doivent aller trier grain par grain. C'est vraiment un travail minutieux. Donc, je veux dire par là, ces gens-là travaillent vraiment peut-être un peu beaucoup plus que les autres. Alors, son nom lui vient de l'allemand. Eigen, avoir, et Helm, casque. C'est devenu donc Yquem, grâce à ce don-là. Pourquoi l'allemand? Bon, certains disent que c'est un négociant allemand qui aurait un petit peu acheté les propriétés et qui avait la négoce. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que c'est 75% de Sémillon et 25% de Sauvignon. Qu'il y a un petit truc qu'on doit savoir avant. Donc, on marie souvent le foie gras et le sauterne. Et maintenant, on le fait souvent en entrée. Ce qui est évidemment une hérésie, puisque dès que vous avez bu un sauterne en entrée, c'est terminé, votre palais il est niqué pour les autres vins. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'avant, le foie gras était servi en pré-dessert. Donc on servait le foie gras juste après le plat, et avant le dessert, et alors là, évidemment, on mettait du sauterne qui allait continuer toute la soirée. Donc juste après, on allait, si vous voulez, sur les desserts. Alors, on va parler de 67, parce qu'il y a une très belle histoire pour 67. Donc c'est pas une année très correcte pour le Bordeaux en 67, 65, hein. Et si vous voulez, quand il est sorti le 67, en 1970, tenez-vous bien, ils ont vendu une caisse. Donc ils ont vendu une caisse de ce vin. Et un Suisse, lui, l'a trouvé formidable et il a décidé, lui, d'en acheter. Il a dit, moi, je vais acheter ça. bien lui en a fait parce que maintenant c'est un des millésimes du siècle de chez eux. Alors, j'ai bu 67 pour les 50 ans de Laurent Gérard chez moi. Et alors, les arômes qu'on a eus, on avait un petit peu au premier nez, bon, l'orange amère, puis de la marmelade d'orange et la menthe. C'est vraiment les trois principaux caractéristiques de ce vin. Alors, dans les petites anecdotes, Picasso a écrit une lettre à Jean Cocteau en lui disant qu'il se réjouissait de le rencontrer pour boire Ikem et manger ça avec des huîtres. Donc, je trouve que l'histoire est quand même un petit peu sympa.
La production de ce château-là, c'est quoi plus ou moins
combien de bouteilles ? C'est plus ou moins, je dis bien plus ou moins 80 000 bouteilles. Voilà, entre 80 et 90 000 bouteilles. Quand ça va bien, ça peut être même 92. On doit savoir qu'en 2011 aussi, Château Ikem 1811 a été vendu 80 000 euros. Donc vous voyez quand même que c'est un peu l'or, comme on le dit souvent, c'est l'or jaune. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 67 ? Alors... Ah oui, encore autre chose, Ikem fait aussi un sec, Y d'Ikem. Donc ça va, ils ont créé ça en 59. Et alors, Mouret Che Guevara, Martine Carole, au cinéma, deux films de Louis de Funès, Le Grand Restaurant et Oscar. Notre amie Brigitte Bardot chantait les Harley Davidson. Et alors, c'est une bonne nouvelle, je pense que c'était la première greffe d'un cœur humain en 67.
Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, effectivement.
Oui, ça a été réussi, ça a été réussi.
Alors, les auditeurs m'ont posé la question, je ne sais pas, mon cher Guy, mais quand on a la chance de te recevoir, est-ce qu'on a un verre à table ? Non, on ne boit pas, on est bien d'accord.
On est tous crevés, sous
J'ai une question à poser, toute simple. On parlait de cépage il y a 15 jours, un autre élément qui est en rapport du vin. Quelle serait la bonne température pour une cave à vin ?
Alors là, évidemment, quand on dit « chambrer », parce que souvent on dit qu'il faut chambrer le vin. Il faut savoir qu'à l'époque, chambrer, on mettait les vins dans les chambres, il n'y avait pas de chauffage et ça tournait entre 13 et 15 degrés. Donc voilà, moi je pense que la température idéale, ce serait entre 13 et 15. Maintenant, bon, les spécialistes vont jouer peut-être sur le degré près. Champagne, pas trop froid le champagne. Un champagne, c'est entre 7 et 8 pour moi, voilà. Donc voilà, on boit souvent les vins trop chauds ou trop froids.
D'accord. Guy Van Allerguet, une réflexion ?
Non, mais je voulais juste dire, c'est pas par rapport au fait que c'est vendangé plus tard, c'est différent des vendanges qu'on a pour les vins de glace, par exemple.
Eiswein.
Oui.
Alors, le Eiswein, on l'appelle vin de glace parce qu'ils doivent le cueillir très tôt le matin, quand il fait 7 degrés. Il faut que le raisin soit gelé et pressé gelé, okay. D'où vin de glace. Mais là, ce sont des notes allemandes. Le vin de glace, tu peux le comparer au grain noble de l'Alsace. Tu vois, okay. C'est à peu près les mêmes vendanges.
Eh bien, écoutez, c'est parfait, c'est formidable. On te retrouvera donc dans 15 jours, encore pour d'autres histoires, d'autres gags. On a peut-être déjà une idée de l'année pour dans 15 jours.
Ah non, ouais, tu crois que je travaille 15 jours à l'avance.
Eh bien, écoutez, sur la première pause musicale, on se retrouve juste après avec M. Jean-Marc Casini et M. Patrick Derouane. À tout à l'heure.
Maximum, le mag.
Deuxième séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, vous êtes sur Maximum, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, nous avons la chance de recevoir avec nous deux entreprises qui non seulement ont créé de l'emploi, mais en plus ont passé le cap des 30 années sur leur secteur d'activité. Et Dieu sait si ça a évolué. Patrick Derouane est sur ma droite, fondateur CEO de Derouane SA. Rebonjour, 30 ans, une évolution de produits et de services. Alors, c'est une info, c'est une intox. Vous avez démarré dans les caves de chez papa et maman ?
Pratiquement, oui, dans la buanderie en fait, de mes parents il y a maintenant 30 ans. Donc effectivement, à l'époque, je travaillais seul pendant 3 ans. Et j'ai engagé mon premier collaborateur en 1992. On s'est diversifié parce qu'à l'époque, on faisait que la fourniture de bureaux, tout ce qui est papeterie, consommable, bureautique.
C'était quoi, le bloc de feuilles A4 ?
Le papier, les blocs, les bics, les rouleaux fax, même les rouleaux téléx au début.
Mais pourquoi en fait ? Mais pourquoi ce secteur-là ?
Alors tout à fait
à
par hasard.
À l'école, vous étiez tombé à court ?
En fait, tout à fait par hasard. J'avais envie de mettre à mon compte, je n'avais aucune compétence, pas d'argent, pas de formation. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ça me paraissait relativement facile. Simple, il ne fallait pas de stock, pas de grand plan financier, pas de grand business plan. Et donc il ne fallait pas de sous pour démarrer. Et donc j'ai acheté un vieux break, j'ai sonné aux portes et j'ai été progressivement chercher quelques clients, 5, 10, 15, 20. Je me rappelle après la première année avoir 70 clients à qui je livrais moi-même avec mon break, quelques big.
Est-ce que vous vous rappelez de votre premier client ?
Mon premier client, je pense que c'est l'école de maman, en fait. Voilà. L'école primaire de maman, un oncle.
Pistonné, évidemment, pistonné. C'était sûr que ça allait marcher, là.
Effectivement. Et donc, les premiers clients, bien sûr, ont tous gardé une place particulière, évidemment, dans mon cœur. Et je l'ai livré avec mon break. Et ça a duré quand même 2-3 ans. Ça a été, en fait, une croissance très, très lente, je pense, qui elle est difficilement battable, cette lenteur, puisque nous n'étions que 3, finalement, après 6 ans. Et donc, ça a été une croissance relativement...
Et qu'est-ce qui a déclenché ?
Progressivement, je pense que c'est la ténacité, surtout le fait de continuer, parce qu'il n'y a pas eu de croissance rapide. À un moment donné, c'est plus facile, évidemment, d'accroître son chiffre d'affaires quand on est autour de quelques millions que quand on est autour de quelques milliers d'euros. Donc, quand on le double, c'est déjà très bien. La première année, je faisais 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'étais déjà très content. Quand on faisait 30% de plus, à l'époque, je faisais 30% de plus, ça faisait 130 000, on est toujours nulle part. On ne sait toujours pas se payer, on est toujours chez papa, maman, et donc pas de salaire. Puis c'est progressivement, évidemment, que l'évolution a lieu. Et je dirais que c'est une fois qu'on a trouvé nos marques professionnelles, quand on a sorti notre premier catalogue en 1999, qu'on a commencé vraiment à se professionnaliser, que beaucoup de commerciaux de grande qualité nous ont rejoints. Là, je pense qu'on a passé une étape dans le professionnalisme.
Cheikh Ivan Olaguet, une question sur le sujet ?
Oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui le secteur a fortement évolué. Vous êtes combien aujourd'hui, 30 ans plus tard ?
Alors, dans le marché belge ? Ou dans,
non,
la, dans la société ? Ah oui, dans la société.
Non,
donc, on occupe 91 personnes avec aujourd'hui 3 branches d'activité. Grosso modo, un peu plus de la moitié dans la fourniture de bureaux toujours. Un quart dans le mobilier de bureau. Pour la petite histoire, on a concouru avec d'autres associés à la reprise de TDS qui était tombée en faillite en 2015. Donc on a relancé TDS avec 3 partenaires, 25% chacun en 2017. Et puis alors, on a démarré il y a 6-7 ans seulement le parachèvement bureau qui emploie aussi un quart du personnel. Donc on est 91 salariés aujourd'hui dans les 3 activités.
Est-ce que vous avez gardé un esprit familial de votre entreprise ? Il y a d'autres membres de votre famille qui sont impliqués ?
Oui, on a gardé un esprit très familial. J'ai ma sœur qui travaille avec moi, ma sœur cadette qui travaille avec moi depuis maintenant une petite vingtaine d'années, qui est toujours là depuis 20 ans, qui est DRH. Autrement, non, il n'y a pas d'autres membres de ma famille. Mais effectivement, on a gardé une mentalité et une logique extrêmement PME, extrêmement familiale. C'est ce qui nous différencie, je pense, par rapport à la concurrence, parce que tout à l'heure, je pensais que vous parliez du marché. Le marché en Belgique, c'est un marché qui est concouru par des acteurs internationaux. Hein. C'est vraiment tous des grosses multinationales et c'est ce qui nous différencie. C'est ce qui fait sans doute la différence dans l'approche d'une multinationale et de Doron. C'est cette approche plus conviviale, une relation plus confinée qui perdure avec le client. Nous avons des délégués qui sont chez nous depuis 25 ans, qui sont chez nous depuis 18 ans, 17 ans, 15 ans. Il y a aujourd'hui 30 délégués commerciaux salariés chez nous. Et pour certains, je vous dis, ils sont là depuis plus de 20 ans. Ça donne une approche différente.
Dans l'histoire de votre entreprise, le gros virage, ça a été à quelle période et avec quel produit ?
Il y en a eu plusieurs, en fait. Il y en a eu plusieurs. Je pense que l'engagement de mes premiers commerciaux a été pour moi le déclenchement d'un potentiel business. À l'époque, moi, j'étais tout content d'avoir créé mon emploi. Et mon rêve absolu, c'était à 40 ans d'avoir un chauffeur-livreur et une secrétaire. C'était vraiment mon rêve le plus fou. Et puis, quand après quelques années, j'ai engagé un premier délégué qui avait un grand talent commercial, on a doublé le chiffre d'affaires. Puis, j'ai engagé un deuxième, on a triplé. Et puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait une bonne logique commerciale finalement. Ce qu'on proposait était en phase avec le marché. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, on pourrait progresser. Deuxième étape de croissance, c'était le mobilier de bureau. Avec récemment la reprise de TDS, où il y avait vraiment une attente de la part de la clientèle de TDS qui ait un redémarrage. Ils avaient l'entreprise TDS.
Qui était quand même spécialiste au mobilier de bureau métallique, si je ne me trompe pas.
Ça, exactement. Au départ, en 1944, TDS fut créé pour construire les cercueils des soldats américains tombés au champ d'honneur, donc on les renvoyait ainsi dans leur patrie. Et dès 1946, ils ont commencé alors le mobilier de bureau.
Le mobilier métallique, style vert, qui pèse un quart
mais
de tonne.
Ils avaient quand même très très bien développé leur gamme. Mais c'est vrai qu'on a cette image-là des professeurs dans les écoles, bureau lourd, vert, qu'on imagine.
Donc le design a débarqué.
Le design s'est quand même très fort développé dans les années 90 et 2000. Hein,
alors pour ceux qui ne se situeraient pas, Doron, c'est quand même bordure d'autoroute, c'est quand même assez stratégique. L'emplacement au niveau de la visibilité, et puis l'idée d'avoir été faire le showroom à l'étage. Il est clair que c'est quand même une belle vitrine. Vous êtes en place là depuis combien d'années ?
Donc on s'est installé là-bas, j'ai construit là-bas en 1999, il y a tout juste 20 ans. Et c'est vrai que pour nous, si on doit un peu calculer, réfléchir à nos vecteurs de notoriété, vous avez raison, c'est vraiment l'emplacement qui est le premier vecteur. Il y a 50 000 voitures qui passent par jour là-bas, et c'est le premier vecteur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas très longtemps, finalement 5-6 ans, on a fait ce showroom côté autoroute, parce qu'on se rendait compte que c'était un vecteur.
Alors, la petite bonne nouvelle peut-être, je ne sais pas, je pose ta question, on recherche de nouveaux collaborateurs chez Doral.
Oui, tout à fait, on est
sur
à
quel
la
secteur
recherche. On vient tout juste, donc vous m'auriez posé la question il y a 15 jours, ah. Je vous aurais dit un infographiste webmaster, il a commencé. On cherche une responsable marketing qui va commencer à qui on a signé. Par contre, on recherche un délégué commercial pour le Hainaut, un délégué commercial pour la région entre Namur et Liège, un délégué commercial pour Bruxelles aussi également.
Parfait, le site internet de votre entreprise, vous retrouvez toutes ces informations et...
www.doroan.be.
Ben voilà, une entreprise qui est en place depuis 30 ans sur le secteur de l'emploi, c'est également une excellente nouvelle. Donc voilà, si c'est votre secteur d'activité, votre passion, eh bien pourquoi pas. Une carrière chez Doroan me semble aussi peut-être le bon plan. Mon cher Guy, on passe à la deuxième pause musicale et puis on repasse chez Télis qui est également 30 ans. On est dans les bonnes années. Voilà, tout à l'heure, on se retrouve dans 3-4 minutes.
Maximan, le mag.
Troisième et dernière séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça avec mon ami Guy Van Hollorgate, on est toujours bien là.
On est bien là.
Vous n'êtes pas venu avec vos notes aujourd'hui, je vais le dire à tout le monde.
Non, je ne suis pas venu avec mes notes, j'ai la tête.
Vous avez la tête,
comme
évidemment.
Marc.
Vous avez à propos à Bruxelles, le train ça va, les chantiers sont terminés, ça doit aller, la gare de Midi, gare du Nord, ça a l'air d'aller, non?
Oui, mais le week-end c'est compliqué.
Ah.
Mais maintenant, je crois que c'est terminé, en effet, mais ils ont fermé.
Comment ça se fait, ça? C'est plus compliqué alors qu'il y a moins d'utilisateurs?
Non, mais ils ont fait des travaux. Hein,
ah, voilà.
Ils ont modernisé la jonction et notamment la gare du Midi.
D'accord. Ça ne vous a pas perturbé?
Pas du tout, pour venir aujourd'hui, aucun souci.
Bien, vous le savez, mesdames et messieurs, on disait les 30 ans des entreprises. C'est bien, on avait deux entreprises avec nous. Patrick Doroan sur ma droite, fondateur CEO Doroan. Et ça, Jean-Marc Casini, directeur commercial opérationnel Télis. Bienvenue. 30 ans. L'informatique, la téléphonie, Dieu sait si ça a évolué. Alors justement, la question, c'est quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Monsieur Doroan expliquait qu'évidemment, il y a eu plusieurs vecteurs, mais toi, au niveau de la technologie, ça a été aussi peut-être un peu plus compliqué.
Alors nous, ce qui est intéressant à souligner, bon, il y a quelques similitudes, on a débuté dans l'ancienne ferme familiale. En fait, c'est donc le fondateur de la société...
Chez les parents aussi, ça?
Oui, tout à fait.
Chez les parents, ouais. comme chez Doroan.
Chez Jean-Pierre Peters, Jean-Pierre
bon,
Marie-Jeanne, tout à fait.
C'était des loyers pas chers, ça, monsieur Doroan, très certainement, ça. Voilà pourquoi vous avez une croissance assez raisonnable, c'était calculé.
Donc le fondateur Jean-Pierre Peters, lui, a créé la société donc il y a 30 ans. Et c'est un prof d'UNIF, en fait. Il faut savoir que c'est un prof d'UNIF à l'Université de Namur en informatique. Et il a décidé de créer une société de développement électronique et informatique, donc il y a 30 ans. Et ben, il a lancé des activités dans l'ancienne ferme familiale, qui est toujours occupée...
Mais là, on vendait quoi? Des ordinateurs au départ? Alors, c'était quoi?
Non, au départ, voilà, on est vraiment sur du développement spécifique. On a fait de l'automatisation également. Donc on a travaillé dans de la robotique. Pour être vraiment concret, je peux citer quelques exemples. On a travaillé longtemps pour Nico, pour les interrupteurs intelligents. Donc là, on est vraiment dans la domotique. On a travaillé sur une application pour la domotique au sein des chambres des maisons de repos. On a travaillé également pour différents domaines. On a travaillé dans le milieu médical pour la production aussi d'encéphalogrammes. On travaille toujours dans le domaine médical pour l'imagerie, pour la société IBA par exemple. Et on touche à différents domaines d'activité, on peut vraiment aller dans n'importe quel secteur. Je peux encore citer les systèmes de navigation, les tondeuses intelligentes, Bell Robotics, donc pour tout ce qui est grands espaces, et également des applications pour les terrains de golf, les tontes, non seulement également les systèmes de ramassage.
Il y a un secteur qui m'interpelle, la téléphonie, en 30 ans, ça a été aussi un fameux... Chamboulement, ça.
Voilà, il faut savoir que donc il y a une dizaine d'années d'ici, les développeurs et le fils justement de Jean-Pierre Peters, donc qui a repris la société, donc Frédéric Peters, qui est maintenant l'actionnaire à 100%, notre administrateur délégué, lui, il y a 10 ans, a eu l'idée de lancer, d'ouvrir une division informatique, donc au service des petites et moyennes entreprises, SBL, profession libérale également, avec la création d'un outil tout en un qui s'appelle KiWix, qui est un serveur tout en un qui permet de gérer les aspects réseau, partage de fichiers, accès distant et l'aspect téléphonie par internet, qui a pris évidemment beaucoup d'ampleur, parce qu'il faut savoir que la téléphonie IP existe quand même déjà depuis 15 ans. L'État, certains services publics sont déjà équipés depuis
un certain temps. Alors la question qu'on ne pose pas, mais que je pose quand même, pourquoi j'irai chez Télis et pas ailleurs? Qu'est-ce qui vous différencie en fait?
Alors, il faut savoir qu'on a, on a un certain savoir-faire, on n'est pas peu fiers d'en parler parce que On peut par exemple citer le réseau d'intelligence artificielle qu'on a lancé cette année, déjà l'année dernière, mais qu'on a lancé avec une quinzaine d'autres sociétés wallonnes, donc rien n'existait à ce niveau-là. On va dire que tout est fait maison. Donc forcément, il y a différentes choses qu'on va acheter, comme les disques durs par exemple, mais il faut savoir qu'il y a une partie production chez nous. Et donc, on a des fours, on a des techniciens qui vont également travailler sur des cartes à puces. Donc quand on propose par exemple un système de lecteur de cartes à puces, de lecteur de cartes d'identité pour le bureau économique de la province de Namur, pour les parcs à conteneurs, il faut savoir que nous, on va également assurer la partie production. Et pour revenir au serveur KiwiX, forcément, c'est nous qui l'avons créé. On a créé les logiciels, l'application. On a simplement acheté une carcasse, des disques durs, on a assemblé les composants. Et on va dire qu'on peut pallier à n'importe quelle éventualité. On contrôle le système de A à Z, tout est monitoré. On a voulu proposer une offre industrielle sur le marché où on peut faire un monitoring à distance. Et il y a une certaine homogénéité.
C'est quelque chose qui vous parle, ça, M. Doral ?
Non, c'est, tout ça est un peu abstrait pour moi. C'est très technique. Donc, non.
Vous avez un spécialiste de la société pour
oui,
gérer
tout
ça
à fait,
mais ça vous interpelle quand même
Oui, bien sûr, évidemment, l'évolution. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous
intéresse. En 30 ans, il y a un scoop, il y a du nouveau, il y a vraiment quelque chose qui devrait sortir, une innovation Qu'est-ce qui est chaud?
Oui, tout d'abord, j'espère quand même que je ne suis pas trop technique pour l'auditeur, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Moi, je ne suis pas informaticien, mais quand on baigne dedans. Un nouvel élan cette année, puisqu'on a fait forcément nos 30 ans, et on a également emménagé dans nos nouveaux locaux, donc un tout nouveau bâtiment. On est dans le village de Nanine, en province de Namur. Nous sommes maintenant dans le zoning de Nanine, avec un bâtiment qui est prêt à accueillir 40 personnes. Le tournant par rapport au serveur tournant KiwiX, c'est une version 2 qui sort en 2020, qui va proposer vraiment pas mal d'améliorations. Par rapport au bureau d'études, les nouveaux enjeux, c'est vraiment l'intelligence artificielle.
Mon cher Guy Vermeergen, ça vous interpelle ?
Ah oui, non, ça m'interpelle. Surtout l'évolution et surtout les clients dont... qu'il a cité, notamment IBA ou Bell Robotics, quoi, qui sont des...
C'est pas rien.
Non, c'est pas rien du tout.
C'est pas rien. La question que je pose, évidemment, est-ce qu'on aurait peut-être la chance ? Est-ce que vous recherchez des nouveaux collaborateurs de votre entreprise sur du moyen, du long terme ?
Alors, par rapport au bureau d'études, actuellement, je pense qu'ils vont engager une personne qui va s'occuper plus de... On va le dire en termes techniques, mais CEO, donc quelqu'un qui va chapeauter le bureau d'études, donc les développeurs, les ingénieurs au niveau opérationnel. Au niveau de l'équipe ICT, donc maintenant, on a recruté il y a 2 mois, donc un nouveau commercial. Donc maintenant, ça dépend vraiment des projets au niveau du bureau d'études. Ce sont des projets qui durent 2-3 ans. Donc là, on va...
Le site internet de Télis, c'est...
Donc le site internet, on va surtout parler de KiwiX, donc c'est www.kiwix.be, donc comme le fruit avec un X à la fin, pour tous les services informatiques.
On se revoit tous les deux quoi dans 10 ans, dans 5 ans ? On fait quoi là ? 35 ? Oui. 35 ?
5 ans, il y aura déjà pas mal de...
Allez, on se retrouve pour les 35. Merci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche, mon cher Guy, un excellent retour sur Bruxelles.
Merci,
dimanche prochain, on va parler avec des petites entreprises assez récentes. On recevra une femme d'ailleurs, on recevra Madame Plunus, sera avec nous. Une belle histoire. Donc voilà, mesdames et messieurs, je disais bon dimanche, bon après-midi, profitez du bon moment que nous avons encore à passer, des bonnes choses positives avec mon cher Guy Van den Orguet dimanche prochain. À bientôt, au revoir, merci.
Merci Christian Quinault et Guy Van den Orguet qui nous présentaient leur séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Dans un instant, un peu de musique avant d'entamer la prochaine partie du mag de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous présentera l'expo Racines, les civilisations du Bas-Danube qui est à découvrir au musée Grand Cursus à Liège jusqu'au 26 avril.